procès inquisitorial normal, on en a vu d'autres, observa Belbeau.
Et pourtant, le comportement des accusés est bizarre. Les chefs d'accusation sont que les chevaliers, pendant leur rite d'initiation, reniaient trois fois le Christ, crachaient sur le crucifix, étaient mis à nu et recevaient un baiser in posteriori parte spine dorsi, c'est-à-dire sur le derrière, sur le nombril et puis sur la bouche. In humane dignitatis opprobrium. Enfin, ils s'adonnaient au concubinat réciproque, dit le texte, l'un avec l'autre, l'orgie. Ensuite, on leur montrait la tête d'une idole barbue et ils devaient l'adorer. Or, que répondent les accusés quand ils sont mis devant ces notifications? Geoffroy de Charnay, celui qui par la suite mourra sur le bûcher avec Molay, dit que oui, que ça lui est arrivé. Il a renié le Christ, mais avec la bouche, pas avec le cœur, et il ne se rappelle pas s'il a craché sur le crucifix parce que ce soir-là on était pressé. Quant au baiser sur le derrière, cela lui est arrivé aussi, et il a entendu le précepteur d'Auvergne dire qu'au fond, il valait mieux s'unir avec les frères que se compromettre avec une femme. Mais lui n'a cependant jamais commis de péché charnel avec d'autres chevaliers. Par conséquent, oui, mais c'était presque un jeu. Personne n'y prêtait vraiment foi. Les autres le faisaient, pas moi. J'en étais par éducation. Jacques de Molay, le grand maître, non le dernier de la bande, dit que quand on lui a donné le crucifix pour cracher dessus, lui, il a fait semblant et il a craché par terre. Il admet que les cérémonies d'initiation étaient de ce genre-là. Mais, pur hasard, il ne saurait le dire avec exactitude parce que lui, au cours de sa carrière, il avait initié très peu de frères. Un autre dit qu'il a donné un baiser au maître, mais pas sur le cul, seulement sur la bouche. Cependant, le maître l'avait embrassé, lui, sur le cul. Certains avouent plus qu'il n'est nécessaire. Non seulement ils reniaient le Christ, mais ils affirmaient que c'était un criminel. Ils niaient la virginité de Marie. Sur le crucifix, ils y avaient même uriné, non seulement le jour de leur initiation, mais aussi pendant la semaine sainte. Ils ne croyaient pas au sacrement, ils ne se limitaient pas à adorer le Baphomet, ils allaient jusqu'à adorer le diable sous la forme d'un chat. Aussi grotesque, encore que moins incroyable, le ballet qui débute à ce moment-là entre le roi et le pape. Le pape veut prendre l'affaire en main. Le roi préfère mener à terme tout seul le procès. Le pape voudrait supprimer l'ordre seulement de façon provisoire, en condamnant les coupables, et puis en le restaurant dans sa pureté première. Le roi veut que le scandale fasse tache d'huile, que le procès compromette l'ordre dans son ensemble et le conduise au démembrement définitif, politique et religieux certes, mais surtout financier. À un moment donné apparaît un document qui est un chef-d'œuvre. Des maîtres en théologie établissent qu'on ne doit pas octroyer défenseur aux condamnés, pour empêcher qu'ils ne se rétractent. Vu qu'ils ont avoué, il n'est même pas besoin d'instruire un procès. Le roi doit procéder d'office, on fait un procès quand le cas est douteux, et ici il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pourquoi alors leur donner un défenseur, si ce n'est pour défendre leurs erreurs avouées, étant donné que l'évidence des faits rend le crime notoire? Mais comme il y a risque que le procès échappe au roi et passe dans les mains du pape, le roi et Nogaret mettent sur pied une affaire retentissante où trempe l'évêque de Troyes, accusé de sorcellerie sur délation d'un mystérieux agitateur, certain Nofo Dei. Par la suite, on découvrira que Dei avait menti, et il sera pendu. Mais en attendant, sur le pauvre évêque se sont déversées des accusations publiques de sodomie, sacrilège, usure, précisément les fautes des Templiers. Peut-être le roi veut-il montrer au fils de France que l'Église n'a pas le droit de juger les Templiers, car elle n'est pas exempte de leurs tâches. Ou bien il lance simplement un avertissement au pape. C'est une sombre histoire, un jeu de police et de services secrets, d'infiltration et de délation. Le pape est au pied du mur et consent à interroger 72 Templiers, lesquels confirment les aveux rendus sous la torture. Cependant, le pape tient compte de leur repentir et joue la carte de l'abjuration pour pouvoir leur pardonner. Mais là, il se produit quelque chose d'autre, qui constituait un point à résoudre pour ma thèse. Et j'étais déchiré entre deux sources contradictoires. Le pape n'avait pas plutôt obtenu, et avec peine, et enfin la garde des chevaliers, qu'aussitôt il les restituait au roi. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Molay rétracte ses aveux. Clément lui offre l'occasion de se défendre et lui envoie trois cardinaux pour l'interroger. Molay, le 26 novembre 1309, prend dédaigneusement défense de l'ordre et de sa pureté, allant jusqu'à menacer les accusateurs. Puis un envoyé du roi l'approche, Guillaume de Plaisant, qu'il croit ami. Il reçoit quelques obscurs conseils. Et le 28 du même mois, Il fait une déposition très timide et vague. Il dit qu'il est un chevalier pauvre et sans culture. Et il se limite à énumérer les mérites, désormais bien lointains, du temple. Les aumônes qu'il a faites, le tribut de sang donné en Terre Sainte, et ainsi de suite. Par-dessus le marché arrive Nogaret, qui raconte comment le temple a eu des contacts plus qu'amicaux avec Saladin. On en vient à l'insinuation d'un crime de haute trahison. Les justifications de Mollet sont affligeantes dans cette déposition. L'homme, maintenant éprouvé par 2 ans de prison, a l'air d'une loque. Mais loque, il était apparu même tout de suite après son arrestation. À une 3e déposition en mars de l'année suivante, Mollet adopte une autre stratégie. Il ne parlera que devant le pape. Coup de théâtre. Et cette fois, on passe au drame épique. En avril 1310, 550 templiers demandent d'être entendus pour la défense de l'ordre. Ils dénoncent les tortures auxquelles avaient été soumis ceux qui ont avoué. Ils nient et démontrent que toutes les accusations étaient inconcevables. Mais le roi et Nogaret connaissent leur métier. Certains templiers se rétractent. Encore mieux, ils doivent donc être considérés comme récidivistes et parjures, autrement dit relapsés. Terrible accusation en ces temps-là, parce qu'ils nient avec arrogance ce qu'ils avaient d'abord admis. On peut à la rigueur pardonner qui avoue et se repent, mais pas celui qui ne se repent pas parce qu'il rétracte ses aveux et dit en se parjurant n'avoir rien dont ils doivent se repentir. 54 rétractations d'accusés, autant de condamnations à mort de parjure. Il est facile de penser à la réaction psychologique des autres templiers arrêtés. Qui avoue reste vivant en prison et qui vivra verra. Qui n'avoue pas ou pis se rétracte va sur le bûcher. Les 500 qui se sont rétractés et sont encore en vie rétractent leur rétractation. Les repentis avaient fait un bon calcul parce qu'en 1312, ceux qui n'avaient pas avoué furent condamnés à la prison perpétuelle tandis que ceux qui avaient avoué furent pardonnés. Ce n'est pas un massacre qui intéressait Philippe. Il voulait simplement démembrer l'ordre. Les chevaliers libérés, désormais détruits dans leur corps et dans leur esprit après 4 ou 5 ans de prison, refluent en silence dans d'autres ordres. Ils veulent seulement qu'on les oublie. Et cette disparition, cet effacement pèseront longtemps sur la légende de la survivance clandestine de l'ordre. Mollet continue à demander d'être entendu par le pape. Clément ordonne un concile à Vienne en 1311, mais il ne convoque pas Mollet. Il entérine la suppression de l'ordre et en assigne les biens aux hospitaliers, même si pour le moment c'est le roi qui les administre. Il s'écoule encore 3 années. À la fin, on parvient à un accord avec le pape, et le 19 mars 1314, sur le parvis de Notre-Dame, Mollet se voit condamné à perpétuité. En écoutant cette sentence, Mollet a un sursaut de dignité. Il avait attendu que le pape lui permît de se disculper, il se sent trahi. Il sait très bien que s'il se rétracte encore une fois, il sera lui aussi parjure et récidiviste. Qu'advient-il dans son cœur, après 7 années passées dans l'attente d'un jugement? Retrouve-t-il le courage de ses aînés? Décide-t-il que, détruit maintenant, avec la perspective de finir ses jours murés, vifs et déshonorés, autant vaut affronter une belle mort? Il proteste de son innocence et de l'innocence de ses frères. « Les Templiers n'ont commis qu'un crime, dit-il. Par lâcheté, ils ont trahi le Temple. Lui ne marche pas. » Nogaret se frotte les mains. À crime public, condamnation publique et définitive, avec procédure d'urgence. Même comportement que Mollet chez le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay. Le roi décide, dans la journée même, on érige un bûcher à la pointe de l'île de la Cité, au coucher du soleil, Mollet et Charnay sont brûlés.